Barcelone. Au jour d'aujourd'hui, maintenant, j'évite la zone. C'est la cour, pareil. Je pars du même principe que Benjamin, c'est que j'ai appris maintenant à faire la différence avec les gens bien, les mauvaises personnes. Et je me suis rendu compte que malheureusement, au niveau de la zone, au niveau de la rue, il y a beaucoup de mauvaises fréquentations parce que beaucoup d'engrenages au niveau de la pareil, hein, des drogues, de l'alcool. Et moi, vu que j'ai envie de m'en sortir, si c'est pour aller passer mes journées avec des gens qui sont tout le temps en train de boire. Justement, moi, mes premières années de rue, ça a été ça. À la base, je buvais pas. Bon, je fumais un peu le joint. Et je suis tombé dans l'alcool au bout de 15 jours. Ouais. À me lever le matin, à boire des 8-6, à boire 10 8-6 dans la journée. Même 22 8-6, une fois, je suis monté à 22 8-6. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Ouais. C'est énorme, c'est 22 bières à 9 degrés. Quoi.
Un micro à la dérive!
Un micro à la dérive!
Un micro à la dérive!
Un micro à la dérive! L'émission qui vous écoute!
Un micro à la dérive! À la dérive!
Un micro à la dérive, qui s'écarte de la direction normale sous l'effet des vents, des courants. Oui, mais un micro qui revient toujours à son port, chargé de son et d'envie d'ailleurs. Bonjour à tous et à toutes, on continue cette série de documentaires consacrés au SDF. Le parti pris de l'émission a été d'abord de leur donner la parole et de la compléter avec celle de la Sauvegarde 56, qui est une association et qui est en charge de leur trouver des solutions d'accompagnement et de logement. Mais rappelons d'abord ceci, la pauvreté touche, selon l'INSEE, en 2018, quelque 9 300 000 personnes. Et selon la fondation de l'abbé Pierre, près de 900 000 personnes sont privées de logement personnel. Parmi elles, 141 500 sont sans domicile et 85 000 vivent dans des habitations de fortune. David et Benjamin, eux, sont ces deux SDF qui m'ont interpellé dans la rue alors que j'effectuais un autre reportage. Ils voulaient me parler, mais à les écouter, j'ai aujourd'hui l'impression qu'ils voulaient vous parler. Vivre dans la rue n'est pas en soi un projet de vie. Et pourtant, ces personnes qui vivent et dorment dehors nous semblent parfois avoir choisi ces conditions de vie. On s'habitue à les voir tous les jours et on ne s'interroge plus sur les raisons qui les ont fait s'écarter d'une vie dite normale. Dans le second épisode, je vous apprenais qu'environ 46% des enfants placés et recueillis par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, devenaient SDF par faute de la poursuite d'accompagnement à leur majorité. Benjamin, le plus jeune, faisait partie de cette catégorie d'enfants perdus par l'ASE. Son témoignage raconte ses galères de rue, mais aussi sa difficulté à rester en appartement. Vous allez entendre aussi la parole de Gigel, un jeune Roumain qui a quitté la Roumanie en espérant mieux vivre en France et qui, après quelques boulots de traducteur pour la police des frontières à Paris, s'est retrouvé un jour dans la rue. Gigel nous parlera des mauvais rapports avec ceux qui nomment les Français pauvres. Il nous parlera aussi de la mafia roumaine qui exploite des réseaux de manches sur Paris. Benjamin et David, eux, nous feront part de leur fatigue de vivre dans la rue, mais aussi paradoxalement de la difficulté de rester stable lorsqu'on a un logement. Ils parleront aussi de l'hiver qui approche et enfin de leur avenir. Et pour terminer, Madame Guillard de la Sauvegarde 56 nous expliquera le rôle des travailleurs sociaux, les maraudes de la Croix-Rouge et les accueils du jour organisés par le CCAS. Bon, David et Benjamin, ça fait 4 ans pour toi que tu es dans la rue. Toi, ça fait
un an et demi, deux ans.
Est-ce que tu n'as pas la crainte de t'habituer à la rue, de vivre des années encore comme ça?
Si, il y a même un ras-le-bol. Bon, moi, j'ai 4 ans de rue. Après, bon, malheureusement, il y a eu aussi dans les 4 ans de rue, il y a des années de prison aussi. Et donc, il y a la rue, la prison. Donc, arrivé à un moment, c'est tout le temps le même circuit. Et j'en ai marre. J'aimerais bien avoir une vie normale. Moi, à côté, j'ai un fils qui a 10 ans. J'ai envie de le récupérer parce qu'il est en famille d'accueil. Et donc, j'ai envie de la stabilité. Puis là, à Lorient, il y a tout ce qu'il faut. C'est une belle ville. Maintenant, ce qui manque, c'est l'appartement, le travail. Et puis que, s'en sortir, quoi, tout simplement.
C'était vrai quand même, souvent, pour moi, pendant 2 ans et demi, j'étais à la rue, donc je pouvais faire ce que je voulais, j'étais libre de mes faits et gestes, de mes mouvements. Je pouvais vraiment faire ce que je voulais, j'avais pas de loyer à payer, j'avais... Mais donc du coup, bah, en fait, je suis en train de me rendre compte, parce que j'ai mon appartement depuis 1 mois et demi, en CHRS, il y a beaucoup de complications, parce qu'il y a des papiers, il y a ci à faire, il y a ça à faire. Et puis bah des fois, j'ai pas envie de tout lâcher, mais presque, des fois, quand je vois que bah, du coup, bah, j'héberge mon petit frère, j'héberge un pote, enfin, pas la bonne poire, mais presque en fait. Et puis bah du coup, bah des fois moi-même, j'ai réfléchi dans ma tête à tout lâcher et à reprendre ma tente et faire ma vie comme un Robinson Crusoe, vivre du RSA comme tous ces étrangers le font chez nous. Et que je trouve ça aberrant quand même. Et que des fois, enfin, c'est abusé, quoi. Il y a plein de trucs, des fois, qui ont envie de lâcher.
Alors moi je travaille dans une école où il y a beaucoup de papas d'origine étrangère qui bossent dans des conditions assez difficiles pour la découpe de viande ou bien dans la découpe de poisson. Est-ce que c'est des boulots qui vous accepteriez ?
Ah ouais, sans problème, moi je suis boucher de métier, puis j'ai toute la famille qui sont dans le poisson. Alors moi la bouche c'est le métier qui me plaît. Ouais.
Et en boîte d'intérim on te propose pas ?
Bah, on m'avait proposé en boîte d'intérim, mais le truc, c'était à 60 km de chez moi, et comme je suis à pied et que les trains commencent pas avant 6h du matin, et que, je commence le poste justement de 6h à 13h, donc c'est des horaires qui sont pas mal, mais pour y aller, c'est pas pratique, quoi.
Donc on revient toujours à la même difficulté, il faut un logement, il faut un véhicule.
Être étudiant, parce que ça, pareil, c'est bien de donner du travail aux étudiants, mais... Trop d'avantages pour eux, arrive un moment, les boîtes d'intérim, quasiment toutes les boîtes d'intérim étaient fermées ou étaient réservées que pour les étudiants. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir du moment où on n'est plus étudiant, moi je suis désolé, il y a 10 ans de ça j'étais encore étudiant, et malgré tout ça n'a rien changé pour moi. Et là, donner des avantages aux étudiants, c'est bien, c'est vrai, ils sont jeunes, il faut les aider, mais nous aussi il faut nous aider, on a droit d'être aidés. C'est pas parce qu'on a 37 ans ou plus ou quoi que ce soit qu'on n'a plus le droit d'être aidé.
Comment ça se passe, Benjamin et David, avec les autres SDF, hein, quand vous allez d'une ville à l'autre, est-ce qu'il y a des places gardées,
Avec les autres SDF ?
Oui.
Bah, du coup, bah, moi quand je suis arrivé ici sur l'Orange, je suis arrivé avec un super bon pote à moi, enfin que je pensais être un super bon pote parce qu'il me connaît depuis gamin, depuis ma ville natale, quoi. D'accord. Et donc du coup bah je faisais la manche avec lui tout ça, mais comme chacun ses problèmes, donc moi c'est la fume, lui c'est la boisson, ça et tout, donc du coup bah ça a fini qu'au bout de 2 mois on s'est déchiré, quoi, on n'est plus amis, et aujourd'hui on n'est plus amis. Et puis bah au bout de 3 mois j'ai bien compris que faire la route avec quelqu'un, faut que ça marche bien. Parce que sinon ça casse, quoi, parce que c'est obligé, parce qu'il y en a qui veulent un truc, d'autres qui veulent ça, et puis bah on peut pas se mettre forcément d'accord, et puis, bah du coup depuis ce jour-là j'ai choisi de faire ma route tout seul. D'accord. De faire ma route tout seul, de vivre tout seul dans ma tente, de faire mes trucs tout seul, j'ai besoin de faire la manche, je vais faire la manche tout seul, comme ça je partage avec personne. Et puis voilà, après il y a juste un pote que ça fait 1 mois et demi, je l'aide et voilà, je l'héberge, donc du coup on s'arrange entre nous pour faire la bouffe, pour fumer, pour manger, enfin, on s'arrange, on met kiff ensemble, quoi, mais sinon moi depuis ce jour-là maintenant, je crois que même si un jour je repartirai je partirai tout seul. Ou alors avec quelqu'un vraiment de sûr, de chez sûr. Parce que les gens, même comme vous dites, un ami quand même d'enfance, quoi, il m'a connu, j'étais comme 3 pommes. Il avait 20 ans d'écart avec moi. Et au final, je lui ai dit, c'est quoi, je me dis, c'est que tu fasses ta route, je fais ma route, parce que c'est pas possible.
Et toi, David, moi, qui a déjà 10 ans d'expérience, avec, on le répète, un aller-retour entre la prison, la rue, et puis...
Au jour d'aujourd'hui, maintenant, j'évite la zone. Je pars du même principe que Benjamin, c'est que j'ai appris maintenant à faire la différence avec les gens bien, les mauvaises personnes. Et je me suis rendu compte que malheureusement, au niveau de la zone, au niveau de la rue, il y a beaucoup de mauvaises fréquentations parce que beaucoup d'engrenages au niveau de des drogues, de l'alcool. Et moi, vu que j'ai envie de m'en sortir, c'est pour aller passer mes journées avec des gens qui sont tout le temps en train de boire. Justement, moi, mes premières années de rue, ça a été ça. À la base, je buvais pas, bon, je fumais un peu le joint. Et je suis tombé dans l'alcool au bout de 15 jours. Ouais. À me lever le matin, à boire des 8-6, à boire 10 8-6 dans la journée. Même 22 8-6 une fois, je suis monté à 22 8-6. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Ouais. C'est énorme, c'est 22 bières à 9 degrés, quoi. Et à me lever le matin, avoir la tremblotte et tout ça, à partir de là, j'ai quitté parce qu'on était à 4 sur Paris, j'ai quitté mon groupe et puis moi j'ai fait ma route de mon côté. Et c'est là que j'ai compris que dans la rue, en fait, si on peut éviter la zone de traîner avec les autres personnes de SDF, c'est mieux. c'est mieux parce qu'après il y a trop de profits aussi. C'est si les gens que vous fréquentez, les autres SDF, ils voient que vous savez faire la manche, vous savez vous payez votre tabac et tout, bah ils vont en profiter. Ah tiens, t'as pas une cigarette. Bon, c'est pas grave, une fois. Après vous allez le revoir le lendemain, le collègue. Ah oh, t'as pas une cigarette. Ça fait déjà en deux jours deux cigarettes. Puis ça fait tous les jours la même histoire.
Donc, non, comment David et Benjamin vous voyez l'avenir?
Moi, en appartement avec mon fils et un travail et une femme.
Moi, je sais pas encore comment je vois l'avenir parce que vu du coup comment l'échelle du monde tourne en ce moment avec les gilets jaunes, avec le G7, je sais pas quoi.
Le G7.
Donc je sais pas comment je vois l'avenir moi, mais j'espère pas dans la rue, mais je sais pas encore comment en fait. Moi, je vis au jour le jour. Donc je suis genre de gars, j'ai quand même fait pas mal de patelins. J'ai fait Dax, Tarbes, Jetemont, Souston, Azur, Paris, Orléans. J'ai quand même fait pas mal de patelins. Donc du coup moi je suis genre de gars qui peut partir sur un coup de tête quoi en fait.
Benjamin et David viennent d'évoquer leur avenir. Mais pour les aider à se reconstruire, Madame Guillard, cadre à la sauvegarde 56, nous explique le rôle clé des travailleurs sociaux et en parallèle les maraudes organisées le soir par la Croix-Rouge et l'accueil du jour proposé par le CCAS. Et quand on parle des travailleurs sociaux, quelles sont leurs qualifications ?
Alors les travailleurs sociaux qui sont dans nos centres d'hébergement sont des assistants sociaux, des éducateurs spécialisés ou des conseillers en économie sociale et familiale. Voilà, donc ils sont spécifiquement formés dans cet accompagnement. Hein, il est important pour les personnes les plus en difficulté que l'accompagnement soit professionnel. Il faut savoir que les histoires de toutes ces personnes sont compliquées, sont lourdes, et qu'effectivement, accompagner ces personnes, les entendre sur leurs souffrances, sur leur parcours, je dirais, un peu maillé de traumatismes, eh ben, ça demande de la professionnalité.
Là, on parle d'une asso qui est aidée par l'État. Est-ce qu'il y a d'autres assos dans le champ d'aide aux SDF?
Alors, ce qui existe sur l'Orient, ce sont effectivement avec la Croix-Rouge des maraudes. Hein. Les maraudes, ce sont des bénévoles hein, qui vont aller en soirée offrir des petites prestations, repas, café aux personnes SDF. Le but étant de recréer du lien avec eux pour effectivement les remobiliser, alors à partir après de nos dispositifs professionnels, notamment du service intégré de l'accueil et de l'orientation. Voilà, il y a des liens tous les jours entre ces deux dispositifs. Il faut savoir quand même qu'il y a des personnes à la rue au niveau des maraudes, mais il y a aussi des gens qui sont tout seuls dans les appartements et qui trouvent aussi du lien social sur ces maraudes.
Les maraudes se déroulent toute l'année ?
Alors, elles sont toute l'année, elles vont être renforcées s'il y a une période de grand froid, mais toute l'année, effectivement, ces maraudes-là sont présentes 2 à 3 soirs par semaine sur l'Orient.
Donc, si je comprends bien, d'une part, il y a soit l'acte volontaire de la personne sans-abri qui va venir voir le siège de la sauvegarde et demander un dossier, soit le hasard des maraudes peut le faire rencontrer avec un des bénévoles qui vous met en liaison via le 115 ou bien via votre adresse pour demander un logement. C'est bien ça ?
Effectivement, et puis il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est l'accueil du jour pour les SDF. Alors c'est géré par le CCAS hein, de l'Orient qui effectivement accueille tous les matins, je crois, les personnes SDF pour effectivement des prestations d'hygiène, mais aussi peuvent préparer leur repas et rencontrer aussi des travailleurs sociaux pour faire le point avec eux. On est en lien effectivement.
Le micro des dérives, vivre dans la rue, sans toi, ni moi, épisode 3. Dans la rue, il n'y a pas que les grands pauvres français. Il y a aussi les autres, les métèques, comme le chantait Moustaki. Il y avait par exemple Mick, un Anglais que j'ai rencontré plusieurs fois, mais qui a toujours refusé d'être interviewé. Et c'est donc Gigel, aujourd'hui, que vous allez entendre. Il est roumain et il va vous raconter son parcours qui l'a mené de la Roumanie à l'Orient.
Bonjour, je m'appelle Gigel Bucuresteanu. Je suis de nationalité des Roumaines. Je voulais pour savoir... Je suis de la rue depuis une année, jamais ressources. J'ai dormi depuis quelques années dans la rue et en fait, j'ai eu un domicile du CCIS. Et après, je l'ai fait une demande de recherche d'emploi et rien.
Gisèle, pourquoi tu as quitté la Roumanie?
Parce que c'est la pauvre.
C'est la pauvreté?
Oui, c'est la pauvreté. Il n'y a rien de... Tout ce... Quand je demande là-bas du travail, tout c'est sa ventre.
Mais en Roumanie, tu avais une famille, tu avais des relations?
Non, jamais. Que, c'est avec famille, en plus, ils ne voulaient pas me voir chez moi.
Tu as quitté la Roumanie, tu es venu directement en France ou bien tu es passé par l'Allemagne?
J'ai quitté de la Roumanie à cause de la grève, de la crise, parce que tout ça vendre de usine, de société, d'employeur, tout, c'est pas sec.
Donc tu quittes la Roumanie, tu viens directement en France?
Oui, je suis venu à la France pour avoir demandé un travail, pour avoir des... J'ai besoin d'une autre chose pour avoir d'endroit, pour faire un autre d'endroit d'employeur.
D'accord. Et quand tu arrives en France, comment ça se passe? Tu trouves du travail?
Quand j'ai arrivé à la France, j'ai venu faire une demande d'inscription de Pôle emploi. Je m'avais proposé des formations, j'ai présenté. Je vais faire des formations nettoyage, IBEP. Et deuxième formation, c'est CLPS, KSS, NACEL.
D'accord.
Voilà.
Et tes formations ont servi par la suite,
hein? C'est pas ensuite, c'est arrivé tous les jours, le programme.
Oui, mais avec tes formations, tu arrives à trouver un emploi?
Oui, c'est intégré dans l'emploi.
Donc, si tu avais un emploi, tu avais de l'argent?
Il n'y a rien, tout c'est des étrangers. C'est pour on améliorer, pour apprendre des langues des Français.
D'accord. Non, mais je parlais du boulot, du travail. Tu as suivi des formations. Et avec les formations que tu as suivies, est-ce que tu as trouvé du travail?
Non, jamais trouvé du travail. Non. Jamais. Une fois, je trouvais dans un restaurant flinch. Je travaille un mois. Et après, c'est des remplacements. Et après, c'est arrêté. Et je l'ai présenté du Pôle emploi. Comme quoi, je travaille de la restaurant flinch. Et après, je présentais à la Pôle emploi. C'est ça.
Et là, tu es à Lorient depuis combien de temps?
Depuis une année. Quand j'ai dormi de la rue, en fait, j'ai eu une assistance sociale. L'assistant social, il ne voulait pas pouvoir déplacer. Parce que j'avais une adresse à la Lanester, ça consiste. Et c'est super très difficile d'avoir une assistance sociale.
Pourquoi il y a beaucoup de pauvres qui ont besoin d'assistance sociale?
Des fois, des assistants sociaux, c'est des gens qui sont pauvres dans la rue, ils n'intéressent pas.
D'accord.
Et quand je demandais d'une assistance sociale, ils sont fâchés une fois, deux fois, ils sont fâchés. Ils se sont dit que je suis en boulot. Moi, je demandais un rendez-vous, je leur présentais des rendez-vous. Il cherche beaucoup de choses d'une assistante sociale. C'est pour ça que je n'ai pas en avoir d'une assistante sociale.
Donc tu as dit tout à l'heure que tu étais roumain, donc tu es dans l'Union Européenne et tu peux percevoir à ce titre le RSA.
Non, ils m'ont dit que quand c'est travail, quand c'est avec une ressource de formation, du Pôle emploi, de perçus d'autre chose. Et après, c'est à se voir du RSA.
Donc actuellement, tu n'as pas de ressources?
Rien du tout.
D'accord. Donc là, tu vis simplement de l'aumône, de l'argent, en faisant la manche que...
Je fais de faire la manche depuis quelques années. Donc, on n'a rien de ressources. J'ai en avoir des besoins, on a droit d'une maison, on a droit de travail. C'est pas ça.
Est-ce que tu connais les autres personnes qui font la manche à Lorient?
Il y a des Français qui sont faits, ils sont venus de Lavanne, ils sont venus ici, ils sont bagarres, ils sont dérangés, des gens qui sont dans la rue. Il y Il y a des gens qui sont français, il est venu pour faire du falamanche. Il est avec un appartement, il est avec du, autre chose. Ils sont agressés, des gens qui sont dans la rue.
Donc il y a une mauvaise entente entre personnes qui font la manche, quoi.
Non. Il y a que des Français qui sont par ici, qui sont avec des appartements, des RSA, qui ont notre boulot. C'est pour ça que...
Tu veux dire qu'il y a des Français qui font la manche et qui ont des appartements, qui vivent en appartement?
Oui.
Tu penses à qui?
Parce qu'il y a beaucoup de Français. J'ai vu tous les samedis dans un marché. J'ai vu qu'il y a beaucoup de Français qui sont avec un appartement. Ils en profitent des RSA. Et aucun du travail, on n'a rien du tout. Et après, il est venu déranger des gens qui sont pauvres. Il les dégage, il les jette du bière, il les jette des bouteilles de whisky partout. Là, moi, c'est la deuxième fois que c'est passé.
D'accord. Je vois que tu es faiblement équipé, tu n'as qu'une polaire, tu n'as pas de duvet. Comment tu fais?
Ça, je m'ai donné des gens qui sont vus de la rue, qui m'ont donné. Il m'a dit que est-ce que vous, c'est possible pour vous donner un pullover, une pantalon, une chemise. Oui, il n'y a pas de souci. Moi, je lui ai dit tout merci des gens qui sont gentils.
Et tu arrives à recevoir combien d'argent par jour, à peu près 10, 20, 30 euros?
Non. Moi, j'ai presque 10 euros, 5 euros, c'est ça, je fais. Que pour me prendre à manger.
D'accord. Et tu dors où, par exemple, à Lorient? Comment tu fais pour dormir?
Je dors, par exemple, c'est un autre abandonné du magasin. C'est abandonné.
Là, pour situer, on est devant la boulangerie Le Goff. Dans la rue de la Patrie, et là tu me montres
jusque à côté des je sais pas comment il s'appelle,
Bata des Vrèdes.
Voilà, à côté du Bata des Verts, c'est une place, c'est là-bas je dors.
Et comment le soir là, la police te dérange pas, enfin, y a, ou d'autres? Non,
non, merci, merci.
Non,
non, jamais. Il passe le civilet de la police, c'est court. Jamais de déranger.
Il y a une aide apportée par la Croix-Rouge le soir, la maraude?
Oui, il y a des Croix-Rouges qui sont venus, c'est des maraudes. Des fois, je prends une place de foyer. En cas de souci, ils m'aident, il n'y a pas de problème. Autrement, quand je l'appelle, jamais trouvé.
Quand tu dis que tu appelles, donc tu as un téléphone portable?
Oui, j'ai un téléphone portable. Par exemple, il y a des gens qui sont en Grèce, qui sont pas à l'aise. Il y a des gens qui jettent des bouteilles de vodka. Il y a des gens qui sont pas de supporter des gens qui sont la rue. Et il est effacé. Parce que ça fait une année quand je reste de la rue, quand je cherche, quand je fais du falamanche.
Tu cherches du travail dans quel secteur?
Nettoyage, en agroalimentation, partout je cherche. Il y a un autre de poissonnerie, j'ai vu, ils ont besoin, ils sont pas. Ils m'ont dit que c'est complexe. Maintenant, j'en cherche un autre. J'ai demandé à ma conseillère pour en avoir des formations, pour un prix du long, pour un prix de. Du contrat d'insertion pour avoir du travail. Et en plus, on n'a rien trop.
Comment les Roumains ont une mauvaise image dans la mendicité? Quand tu parles avec d'autres SDF, on dit oui, les Roumains, c'est une mafia, c'est organisé. Tu as déjà entendu parler de ça?
Non. Pour moi, comment je vous expliquer, dans la Roumanie, il y a beaucoup de gens qui sont. Comment je vais expliquer? Il y a des gens qui sont dormis de la rue dans la Roumanie, j'ai vu. Des gens qui sont pas aident de solution pour en avoir un logement, autre chose. Ici, il y a des Roumains, par exemple, il y a des Roumains qui travaillent dans un port de pêche. Il est venu depuis quelques années ici. Il habitait jusque d'à côté. Il y a une. Juste d'à côté de la zone bleue.
D'accord.
C'est à côté là-bas, il y a beaucoup de Roumains qui sont en travail.
Mais là, je te parle de ceux qui font la manche, hein, c'est-à-dire des enfants qui font la manche et le soir, une voiture les récupère et c'est une sorte de mafia.
Non, non, jamais, il ne s'est jamais vu.
Pas à Lorient?
Non. En Paris, oui, j'ai déjà vu. À la Paris, j'ai déjà vu.
Ouais.
Il y a beaucoup de gitans qui sont avec des sociétés. Il s'appelle le village Barboulèche. Il y a beaucoup de gitans qui sont faire du mettre du, les enfants pour mettre pour transférer les enfants pour chercher de la table de la restaurant pour faire de chercher de à manger de la monnaie ou autre chose. J'ai vu. Hein. On est déjà je travaille de comment je vais expliquer. Je travaille comme c'est en traduit des romans. Je travaille dans la police du PAF, de la Paris. Je l'ai expliqué comment ça se passe.
Tu étais traducteur pour la police des frontières à Paris.
Oui, 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 c'est ça. Et en fait, il y a des Roumains qui sont beaucoup de profites. Il est avec des boulots, il est avec d'autres choses. En plus, des sociétés qui sont ouvertes dans le pays d'Aloui.
Donc des Roumains qui en fait sont très organisés oui. Pour faire la manche en France et qui ramènent l'argent dans un village en Roumanie.
Oui, c'est ça.
Je parle de toi à Lorient. Tu as des amis, tu as des gens avec qui tu peux parler
Non, jamais. Je préfère rester en sol quand c'est avec une amie, ils en profitent.
Oui.
C'est vraiment... parce que c'est pas la première fois quand j'ai vu une amie. J'ai avec une amie, je... Toujours, il est en pauvre comme chez moi. Je l'ai accroché chez moi. Je donne qu'est-ce que j'ai à manger moi et donne chez lui. Et après, elle, il est pris. Il est vol. Mmh. J'ai dit, non, stop, là, moi, c'est bien pour avec un sol.
Donc, quand on est plusieurs, on se vole entre soi, on se vole. Si on est tout seul, au moins, on garde l'argent pour soi.
Non.
Quand tu es tout seul, tu gardes l'argent pour toi. Si vous êtes plusieurs, il y a parfois du vol entre...
Il y a des gens qui s'en passent. Ils volent de la gobelet, ils les volent de bonnet, avec de l'argent. Ici,
tu parles des passants?
Il y a des gens qui s'en passent, des Marocains.
Oui. Des gens qui... des Marocains qui profitent, qui volent ton argent.
Oui, oui, oui. Comment c'est... Par exemple, moi, je dormais dans la rue. C'est quand on n'a pas de pluie, je dormais là-bas, il y a un autre.
Vers la rue du port
comment il s'appelle Kersi. Kersi.
Chris, le magasin d'optique.
Voilà. Il y a un autre droit de cacher pour dormir.
D'accord.
En fait, on n'a rien soir, jamais sorti pour faire des falamans, jamais. Non. Parce qu'il y a des gens qui sont bourrés, qui sont en bagarre, il est très agressé.
Très violent.
Très violent, voilà.
Et donc tu dormais là et tu t'es aperçu le matin qu'on t'avait volé l'argent qu'il y avait dans le gobelet.
Oui, oui, oui. Il y a des gens qui sont faits. Il y a un autre du français qui s'en passe. C'était demi-heure quand il est passé, il me disait qu'il a place à lui. Mais il est français, comment je vais expliquer? Il me disait que c'est, tu m'apprêtes la place à moi, va dégager d'ici, des gens qui sont venus, je dégageais. Parce que peut-être il va arriver beaucoup.
Oui. Là, on est devant la boulangerie Le Goff, hein, c'est une belle boulangerie. C'est ta place ou bien... Enfin, comment tu l'as gagnée cette place, hein?
Quand il y a des gens qui ne sont pas ici, je me mets dans la place.
D'accord. Personne ne viendra ici t'embêter pour prendre ta place.
Non. Non, il n'y a rien. Quand c'est venu, il y a un autre des gens qui sont venus. Il a dit que cette place, moi je m'en dégage, je laisse là lui.
Ah d'accord. Ouais.
Parce que je croyais qu'il y a des gens qui sont beaucoup gens qui sont venus après.
L'hiver va bientôt d'abord. On est en été. L'hiver va arriver dans 3-4 mois. Comment vous vous débrouillez?
Ah bah moi, j'ai même pas peur. Moi, je fais l'hiver dernier dans ma tente à Lorient. Puis à Lorient, c'est un climat, on va dire, assez cool parce qu'il n'y a pas eu trop de gelée, même pas eu de gelée du tout, même. Donc moi, personnellement, j'ai même pas peur du froid de l'hiver. Dans ma tente, j'ai des squats, ou même sans les squats, j'ai toujours dormi chez des amis à moi en rencontrant des gens. Donc, je suis vachement sociable et même super sociable, j'ai envie de dire.
D'accord. Et toi, David, hein?
Moi, je vais dire la même réponse, parce que avec les années maintenant, j'ai dormi sous la neige et tout ça. Donc on va dire que maintenant, voilà, je pense pas qu'ici en Bretagne, je vais passer un hiver trop dur, mais bon. Après, on verra. J'espère être en appartement. J'espère. Ouais. Là, j'ai lancé mes demandes. Là, je vais faire les demandes au niveau des propriétaires particuliers. On verra bien. On verra bien. Mais je croise les doigts que d'ici cet hiver, je serai en appartement parce que j'ai plus envie de passer un hiver encore dehors. Trop dur. Trop dur entre le froid. Moi, c'est une question d'habitude, c'est sûr. On apprend vite à se réchauffer, à faire des chauffes pour manger chaud, tout ça, mais. C'est compliqué, il faut anticiper tout le temps. C'est tout le temps, toute la journée, anticiper les choses. Et c'est fatigant, moralement comme physiquement, c'est fatigant. Donc là, maintenant, voilà, je sais que maintenant, je suis prêt dans ma tête et que je vais tout faire pour avoir l'appartement avant cet hiver. Parce que comme ça, passer l'hiver au chaud.
Tu as parlé de la fatigue, justement, être dans la rue, c'est fatigant. Ouais, tu peux expliquer pourquoi?
Le regard des gens. Après le fait d'être assis, moi en plus avec la restauration, puis malheureusement la prison, j'ai des problèmes de dos, moi, plus à cause de la restauration, j'ai fait souvent des scolioses, donc d'être assis comme ça toute la journée, le dos ça le fatigue encore plus, moralement, puis d'attendre que ça tombe aussi, parce que des fois vous êtes là à attendre que pendant 3-4 heures, des fois il n'y a pas une pièce qui tombe. Donc c'est comme ça, vous êtes en train de réfléchir, à vous dire est-ce que vous allez pouvoir manger, est-ce que où que c'est que vous allez dormir ce soir. Et puis le fait de réfléchir, tout ça, ça fatigue. Hein. De réfléchir, c'est humain. Et donc c'est entre ça, puis le regard des gens, les réflexions, moralement c'est pareil, on en prend un coup. Quoi. Donc à moi, arrive un moment, ça plus la prison, là je suis au bout du rouleau. Quoi. Je le montre pas, mais au fond de moi, je suis au bout du rouleau, j'en ai marre, là, c'est stop.
Quand on n'a pas l'argent, est-ce qu'il y a des lieux comme par exemple la médiathèque ou d'autres endroits où vous pouvez vous poser, prendre un café, c'est pas cher, on est bien accueilli?
Ouais, il existe dans beaucoup de villes en France des structures qu'on appelle des accueils de jour où on peut se laver, on peut manger, on peut tout simplement se reposer aussi, discuter avec des travailleurs sociaux. C'est à peu près partout en France où c'est ouvert de 10h à 14h ou suivant les villes, ou de 10h à 13h ou 15h. Et le soir, dans certaines villes, il y a des accueils de nuit. Ici à Lorient, a priori, il y a un accueil de nuit, mais il y a 10 places pour toute la ville. C'est très compliqué d'obtenir des places. En plus, il faut y être à partir de
7h30.
Et on vous met dehors à 7h du matin.
D'accord.
Et ensuite, une fois que vous êtes rentré, vous ne pouvez plus ressortir, même pour fumer une cigarette ou pour aller faire vite fait un petit tour avant de dormir. Non, c'est une fois que vous êtes rentré à 7h, vous êtes dans votre bac à l'eau et c'est tout. On vous donne votre bout de pain, votre soupe et un yaourt et au lit.
Un micro à la dérive.
L'émission de reportage Un micro à la dérive vous propose de devenir l'un de ses producteurs, animateurs. Vous êtes curieux? Vous avez le sens du contact? Vous voulez traiter des sujets de société? Alors rejoignez-nous. Vous serez formé aux techniques d'interview et de montage. Pour plus d'informations, contactez Gaëtan Priori au 06 521 585 23 06 521 585 23 ou par mail Un micro à la dérive, @laposte.net. Merci de rester sur Radio Balise.